Bonjour à toutes et à tous, 54e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission proposée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut.
Tout va bien?
Oui, impeccable. Et toi?
Bah écoute, ça va gentiment, c'est le printemps là, je crois, c'est demain officiellement.
C'est donc, ça. Puis déjà, ouais, tu vois, il y a du soleil.
Donc, ça fait déjà une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est cette nouvelle chronique avec toi. Alors, je me rappelle, il y a deux semaines, lors du précédent numéro, Vincent, tu nous avais annoncé du Napoléon et du Haras de Rodez.
C'est ça. Hein? Et des chevaux.
Et des chevaux.
Et pas que des chevaux. Plein de choses, on va voir ça.
Bon, Napoléon n'est pas venu à Rodez.
Non.
Non, d'accord. Pas de révélation.
Non, mais tu vois, quand même, une partie de ses chevaux.
Ah oui.
Donc alors, c'est quand même pas mal.
Bah oui, c'est même très bien. On se demande comment ils sont arrivés là, mais tu vas tout nous expliquer.
Ah, je vais tout vous expliquer. Oui, donc nous n'allons pas beaucoup voyager. Hein. Nous restons sur Rodez, donc avec l'histoire, la très très belle histoire des Haras de Rodez. On va voir que c'est une histoire qui est vraiment très très variée. Mmh. Les deux chevaux, bien entendu, de Napoléon Ier, de l'empereur. Mais les chevaux, je vous en parlerai dans un second temps. Mmh. Je vais d'abord vous parler de l'histoire des lieux. Avant d'être voués aux chevaux, ces bâtiments, en fait, ont été un lieu de prière. Tout commence au début du XVIe siècle, plus précisément en 1511. Mmh. Un chanoine de la cathédrale de Rodez, du nom d'Élion Jouffroy, hérite des terres qui se trouvent à l'extrémité ouest du plateau de Rodez. Mmh. Ces terres appartenaient à son oncle, le cardinal Jouffroy, évêque d'Albi. Donc il lui en fait don.
Ouais.
Ce chanoine décide de donner les terres aux frères Chartreux pour y édifier une...
Chartreuse.
Une chartreuse. C'est bien, tu suis. Mais bon, c'est une chartreuse juste pour la prière.
D'accord.
Il n'y a pas d'alcool. Il n'y aura pas de chartreuse.
Ouais, 16e siècle, c'est un peu tôt. Oui.
C'est ça. L'année suivante, en 1512, le roi Louis XII, on n'est pas encore sous le règne de François Ier, c'est vraiment l'extrême fin du règne du roi Louis XII, accorde l'autorisation de bâtir un couvent. La ville de Rodez et le chapitre de la cathédrale s'opposent à sa construction.
Ah, pourquoi?
Bah, je sais pas.
D'accord.
Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas trouvé. Mmh. Est-ce qu'ils veulent pas de Chartreux ou est-ce qu'ils avaient des vues sur le terrain? Je sais pas.
D'accord.
Je sais pas. En tout cas, ils sont pas contents.
Bah, oui,
ils sont pas d'accord. Un long procès s'engage et va considérablement ralentir les travaux qui ont pourtant déjà débuté. Il faut attendre l'évêque de Rodez, François Destin, qui va finalement donner son consentement à la construction. Et donc, les travaux peuvent vraiment continuer sans aucun souci.
Mmh.
En 1514, la petite chapelle Notre-Dame de Pitié, tu connais cette belle chapelle?
Ça s'appelle plus comme ça.
Si.
Ah bon? Bah non.
Non. Alors, pourquoi tu pensais à quoi toi?
Bah une chapelle à chapelle là, pas loin du Haras mais.
Celle qui est en dessous?
Ouais.
C'est ça, c'est celle-là.
Ah bah d'accord.
Oui,
ah bah je connaissais pas son
nom. C'est celle-là.
D'accord.
Donc elle est construite à l'extrémité du plateau qui surplombe la vallée de Lauterne.
Là oui, la rivière.
C'est ça, c'est ça. Qui sépare au niveau du viaduc de Bourran. Là. C'est, on a tendance un petit peu à l'oublier, ce petit ruisseau, mais c'est Lauterne, et c'est la vallée de Lauterne. Les cellules des quatre premiers religieux qui sont présents à Rodez pour surveiller l'avancée des travaux sont également construites à côté de cette chapelle.
Mmh.
Alors, elle existe toujours. Elle se trouve donc, vraiment, c'est un lieu qui est très beau, elle se trouve dans un écrin de verdure à l'extrémité du chemin de la Boriette.
Oui, tout à fait.
Voilà, quand on est devant l'entrée principale des Haras, en fait, on continue, et c'est vraiment très paisible, c'est vraiment très très joli. Moi, je vous conseille, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas, d'aller faire un petit tour, c'est vraiment très beau. J'y suis allé pour préparer cette chronique, j'ai eu la chance de trouver la chapelle ouverte.
Ah, oui.
Donc, c'est vraiment sympa. Alors, si ça vous dit, il y a une bénévole qui ouvre le dimanche et également, je crois, certains mercredis après-midi.
D'accord.
Et d'après ce qu'elle m'a dit, il y a deux messes par an pour l'anniversaire des apparitions de Fatima, le 13 mai et le 13 octobre.
Ça approche.
C'est ça, tout à fait. Mais c'est vraiment très beau, c'est très paisible. On se croirait même plus à Rodez, on est en pleine campagne, c'est vraiment très très joli. La construction de la grande chapelle de la Chartreuse, quant à elle, débute en 1515, dans l'année du couronnement de François Ier.
Et l'année
de
Marignan.
C'est ça, 1515. Ouais. Peut-être la date la plus connue des élèves français. Mais autrefois, Marignan, je ne suis même pas sûr. Déjà qu'on ne parle plus de grand-chose en histoire, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on parle de 1515 et de Marignan. La communauté de Chartreux s'installe à Rodez en 1524. Je rappelle, il y avait juste quelques moines, quelques religieux qui sont venus juste pour surveiller l'avancée de la première phase de construction des bâtiments. Mais en 1524, les travaux sont pas tout à fait terminés, mais bon, voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà en place. La grande chapelle est consacrée en 1529 par Monseigneur François d'Estaing. Mais l'ensemble des travaux quand même a vraiment du mal à se terminer. Il y a vraiment une extrême lenteur, peut-être due également aux guerres de religion, parce que nous sommes au XVIe siècle et durant la deuxième partie du XVIe siècle, le couvent est pillé à plusieurs reprises par les protestants qui ensanglantent ces guerres de religion, qui ensanglantent le royaume et la région. Les moines réussissent à en réchapper à chaque fois parce qu'ils ont le temps de quitter la Chartreuse pour aller se réfugier derrière les solides remparts de Rodez. Mmh. Entre 1733 et 1734, le couvent se dote d'un grand mur d'enceinte et de tours rondes. Mmh. Est-ce que ça te dit quelque chose, ces tours rondes ? Est-ce que tu en visualises certaines ?
Au Haras, il me semble qu'il doit en rester une, non ? Non, je ne me rappelle plus.
Non, ça te dit rien ? Non. Alors, il en reste cinq.
Ah, bah, tu vois.
Deux qui sont très connues.
Ouais.
En fait, elles se trouvent de chaque côté de la salle des fêtes.
Oui, oui.
Tu les vois, ces deux tours ?
Oui, ça y est, oui.
La troisième se trouve à l'entrée du stade Paul Lignon.
Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr.
Et les deux dernières se trouvent du côté de la chapelle Notre-Dame de Pitié, aux angles de ce qui reste comme étant la plus belle partie encore visible de ce grand mur d'enceinte dont nous venons de parler. Mm-hmm. Donc il en reste cinq. Je ne sais pas exactement combien il y en avait à l'origine. Mm-hmm. Peut-être soit il y avait ces cinq, soit peut-être une ou deux de plus, mais on les voit en vue aérienne, ça fait vraiment tout le tour de, mm-hmm. tout le tour de l'enceinte. Alors les très beaux bâtiments de la cour d'honneur que nous connaissons bien sont bâtis au XVIIIe siècle sur l'emplacement des anciens bâtiments du XVIe.
D'accord.
Voilà, ouais. On modernise un petit peu le style de ces bâtiments. La Révolution éclate et le 13 février 1790, l'Assemblée constituante prononce la dissolution des congrégations religieuses. Mmh. En juillet 1791, les 11 frères chartreux qui composent encore la communauté sont chassés et le couvent est confisqué.
Ah.
En 1796, un régiment de hussards est logé dans les bâtiments. Déjà, tu vois, le haras n'est pas encore là, mais on commence à parler chevaux.
Ouais, parce que hussards, il y a des chevaux.
Hein, ah, les hussards, il y a un paquet. Il y a un paquet de chevaux. En 1798, en 6 de la République, le couvent est mis en vente comme bien national. Mmh. En 1809, le domaine devient haras impérial sous l'ordre de l'empereur Napoléon Ier.
Ah.
Alors, on pense souvent que c'est Napoléon qui a instauré l'administration des haras, mais en fait, cette administration est créée par Louis XIV et son ministre Colbert en 1665 sous le nom de haras royaux.
Eh oui, oui.
Le royaume est presque toujours en guerre et les besoins en chevaux sont énormes. Mmh. Vraiment, on a énormément besoin entre la cavalerie, l'artillerie, les officiers, etc. Vraiment, les guerres consomment malheureusement énormément d'hommes, mais aussi énormément de chevaux. Mmh. La Révolution ferme cette administration, qui pour elle est un peu trop associée avec la noblesse, avec la royauté, etc. Et donc l'empereur Napoléon Ier va la recréer en 1806. Le but des haras est la préservation des races et également la reproduction. Voilà, comme je te disais, il faut énormément de chevaux. Napoléon, c'est un peu comme Louis XIV, c'est des guerres sans arrêt, mmh. donc un besoin aussi énorme de chevaux. Pour ce faire, l'empereur fait transférer dans les différents haras de France certains de ses plus beaux étalons pour améliorer la reproduction.
Ouais.
C'est comme cela que vont arriver au haras de Rodez deux chevaux impériaux. Ils se nomment l'Héliopolis.
Ouais.
Et le Tamerlan.
D'accord. Alors, l'Héliopolis, ça doit faire référence à la campagne d'Égypte. Peut-être qu'il l'avait fait, la campagne, ce cheval-là.
Alors, bravo. Bien, et Tamerlan, bien vu.
Et Tamerlan, on est en Asie centrale. C'est un grand conquérant, enfin, un des plus grands empires.
C'est ça.
Peut-être pas 1000 ans, mais si, 1000 ans à peu près.
Si, à peu près, ouais. Ouais.
Et des grands cavaliers des steppes.
C'est ça. Et en fait, tous les deux sont des purs sangs arabes. Ramené de la fameuse campagne d'Égypte.
Ah d'accord, voilà.
Cette race, en France, est appelée, à cette époque-là, les retours d'Égypte.
Ah ouais, d'accord.
C'est un nom amusant. Au lieu de dire pur sang arabe, voilà, on les appelle les retours d'Égypte. Et eux viennent réellement d'Égypte. Ils sont nés en Égypte. L'Héliopolis est le premier qui arrive en Aveyron. Il est l'un des chevaux préférés de l'empereur. Je dis l'un parce qu'il en a eu vraiment beaucoup. Ouais. On estime que dans toute sa carrière, Napoléon a eu plus d'une centaine de chevaux.
Ouais.
Il a pris part à de nombreuses batailles avec l'empereur. Il arrive à Rhodes en 1811 et il reste jusqu'à sa mort en 1823 à l'âge de 25 ans.
Respectable.
Respectable. Durant son séjour à Rhodes, on lui doit la naissance de 48 poulains et 66 pouliches.
Ah bah il a bien...
C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est vrai,
d'après ce que j'ai lu,
oui.
il a eu beaucoup plus de montes, mais il n'y a eu que 48 poulains et 66 pouliches données. Le Tamerlan, quant à lui, séjourne à Rhodes à la toute fin du Premier Empire, en 1814.
Oui.
Et il est transféré dans un autre haras en 1818, sous la Restauration.
Mmh.
Alors lui, au niveau procréation, c'est beaucoup moindre. Hein. Il donnera 3 poulains et 8 juments.
Ah ouais.
Voilà, tu vois, ça n'a rien à voir.
Ouais, il avait d'autres loisirs.
C'est ça, c'est ça. Le Tamerlan, lui, est vraiment connu dans le monde entier, car en 1813, lorsqu'il se trouve encore dans les écuries impériales de Versailles, il a été peint par le célèbre Théodore Géricault.
Ah,
Géricault,
ouais.
ça te dit quelque chose?
Bah ouais, oui, Géricault.
Une des œuvres les plus connues de Géricault.
C'est pas le radeau de la Méduse?
Si, le radeau de la Méduse, ouais. si ce n'est pas le plus grand tableau du Louvre.
Ouais.
Ce tableau de Tamerlan est vraiment superbe. Vous pouvez le voir, chers auditeurs, si vous regardez le podcast, sur la photo que j'ai mis pour imager cette chronique, vous avez une vue de la cour, la fameuse cour intérieure dont je viens de parler, là, mm-hmm. dont les bâtiments ont été construits au XVIIIe siècle, avec le portrait de Napoléon et ce fameux tableau du Tamerlan. Il est conservé, ce tableau, au musée des Beaux-Arts de Rouen. Alors, grâce à ces deux étalons, l'ombre de l'empereur a plané et plane toujours sur le haras de Rhodes.
Ah oui, j'imagine.
Alors, il y a d'autres chevaux qui sont connus. Il y en a un, si vous vous intéressez au sujet, au musée des Invalides, il a été restauré il n'y a pas longtemps parce qu'il était en très très mauvais état. Vous avez le cheval Vizir, qui lui aussi est un des chevaux préférés de Napoléon, qui a été naturalisé.
Oh la vache.
C'est le seul... Non, pas la vache, le cheval. C'est le seul cheval de Napoléon à avoir été naturalisé, donc empaillé. Hein.
Voilà, ouais,
il se trouve, lui, au musée des Invalides.
Et un
cheval, alors j'ai oublié le nom, celui qu'il montait quand il était à Waterloo, qui a été capturé par les Anglais, a été donc amené en Angleterre. Ça a été une attraction phénoménale. Lui se trouve dans un musée britannique, mais pas empaillé. En fait, on l'a entièrement décharné.
Oh, un squelette.
Voilà, le squelette est reconstitué. En 1989, un autre cheval d'exception vient prendre ses quartiers à Rhodes.
Ah bon?
Beaucoup, beaucoup plus tard.
Ouais.
Il s'agit de... Alors, peut-être le nom te dira quelque chose. Moi, je ne connaissais pas du tout. Dorman.
Ah non.
Non, ça ne te dit rien.
Non,
né en 1984, il va marquer son époque, puisque en seulement 2 saisons, il va gagner 6 des 8 courses auxquelles il participe. Ce qui apparemment est assez... moi, j'y connais rien.
Non, je sais pas moi.
Mais apparemment, c'est pas mal du tout.
Moi, je sais que j'ai jamais gagné aucune des courses auxquelles j'ai participé. Donc déjà, il est plus fort que moi. Voilà.
Moi, je gagne jamais au tiercé, j'y joue pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Et en fait, ce cheval a vraiment marqué les haras de Rhodes et son histoire, puisque une cour du haras de Rhodes porte son nom et une plaque commémorative avec le nom du cheval est apposée sur un des murs.
Ah,
et c'est vraiment le seul cheval pour lequel il y a une plaque et une cour de baptisé dans le haras. Donc, preuve qu'il a marqué son époque.
Une gloire aveyronnaise de la fin du XXe siècle.
C'est
bon,
ça.
Bon, c'était
c'est
un ça. Cheval.
Alors, cette plaque est toujours visible.
Oui.
Si jamais vous y allez, n'hésitez pas à la chercher. C'est un petit jeu de piste, on va chercher la plaque. Lors des Journées du patrimoine 2009, à l'occasion de son bicentenaire, le haras de Rhodes va produire un très très grand spectacle retraçant sa glorieuse histoire.
Mm-hmm.
Pour des raisons d'économie, les haras nationaux se regroupent et un grand nombre d'entre eux vont fermer.
Eh oui.
C'est le cas du haras de Rhodes qui ferme ses portes au mois de juin 2017.
Je m'en souviens.
Ouais, c'est pas si vieux. Les chevaux vont rejoindre le haras national de Cluny en Saône-et-Loire. Le département qui était propriétaire des lieux depuis la Révolution, récupère les 6 hectares, c'est beaucoup quand même, 6 hectares de terre,
comme ça,
ainsi que les bâtiments. De 2020 à 2022, un tiers-lieu appelé Station A s'y installe, et la ville de Rodez achète l'ensemble du site. Les rues ténois, ce qui est vraiment dommage, j'en parlais avec des... Je suis allé le visiter il y a quelques jours, le revisiter il y a quelques jours pour m'imprégner un peu des lieux, pour préparer cette chronique. Je discutais avec un monsieur qui s'occupait de l'entretien. Et alors, c'est vraiment dommage parce que les rues ténois ont tendance à l'oublier. Mais en fait, ce magnifique parc et les extérieurs sont ouverts librement à la visite tous les jours.
Oui, tout à fait. Alors, il l'oublie, oui, sans doute, cette personne a raison. Mais c'est surtout la météo. Hein. Là, tu vas voir qu'avec les beaux jours qui reviennent, là,
c'est possible.
Tout le monde a son souvenir.
C'est possible.
Et puis, l'été, c'est bien occupé. Il y a des animations.
Oui, alors, c'est vraiment un lieu magnifique et vraiment paisible et idéal pour flâner et se balader. Moi, je vous le conseille. La mairie y présente de nombreuses activités. Comme Rodez Plage, Festivada, la foire exposition. Puis je pense qu'il y aura, encore beaucoup, beaucoup d'autres choses qui vont être faites là-bas. Moi, j'ai visité les Haras l'année dernière. Je ne sais pas si tu y avais été. Il y avait une extraordinaire exposition de voitures anciennes.
Ah non, j'ai loupé ça.
Je ne sais pas combien de centaines de véhicules, mais énorme. Des voitures des années. Vraiment du début du XXe siècle jusqu'à ce qu'on appelle les Young, les voitures un peu plus récentes. Mais vraiment, vraiment superbes. Certains bâtiments de l'ancienne Chartreuse sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1942. Donc bien protégés, ça c'est bien.
1942, tiens, ils avaient quand même eu le temps de s'occuper de ça.
Oui, pendant la guerre, il y a eu pas mal de choses. Notamment les lois sur l'archéologie. Alors je ne sais plus exactement quelle année de 1940 c'est, mais les sites archéologiques sont protégés du pillage, etc. Depuis le régime de Vichy.
Ah d'accord,
Oui, donc ils avaient le temps même à ce moment-là de faire des lois, et certaines lois sont quand même restées. Les lois sur les animaux aussi. Je crois que les premières lois
de protection animale.
Ouais, là pour les sur les protections animales, c'est le régime de Vichy. Alors ces bâtiments, donc il s'agit du grand portail d'entrée, des façades et toitures, des bâtiments formant la cour d'honneur, des 5 tours rondes de l'ancienne enceinte dont nous venons de parler aussi, sans oublier l'écurie numéro 1. Qui se trouve dans l'ancienne grande chapelle reconvertie en écurie en 1806.
Oui. J'ai eu l'occasion de visiter.
Ouais, très très beau. C'est vraiment superbe. Il y a encore les boxes des chevaux avec encore les étiquettes, exactement les rations et tout ça. Et puis une voûte vraiment vraiment superbe. Voilà, chers auditeurs, j'espère que cette chronique vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous donnera l'envie d'aller vous balader en ces lieux. Pour les découvrir ou peut-être les redécouvrir autrement.
Vincent, tu m'as donné envie d'y retourner là. En plus, avec les beaux jours, le printemps qui arrive, ça va être.
Ouais, avec le soleil, c'est vraiment agréable.
L'occasion parfaite. Ouais. On est bien d'accord. Merci
c'est
beaucoup.
C'est calme, c'est tranquille. Du coup, n'y allez pas tous en même temps, ça sera moins tranquille.
Merci beaucoup, Vincent. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez.
Oui.
Tu sais déjà où tu vas nous emmener ou quand tu vas nous faire voyager dans le temps.
Dans le temps, on remonte. On remonte au néolithique.
Oh là là, oui, donc la préhistoire.
La préhistoire.
Quoi, les Gaulois avant
Tout à fait la fin de la préhistoire. En fait, je vais vous parler des dolmens, puisque l'Aveyron est le champion de France des dolmens. C'est le département où nous en avons le plus.
C'est
avant des départements bretons.
Je sais, on dit ça, mais il faudrait que j'aie au compte quand même, parce que j'ai un petit doute.
C'est vrai que je vous expliquerai.
avec plaisir, merci.
Je vous dirai tout.
Avec plaisir, merci beaucoup Vincent.
Merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.